chères auditrices de Studio Kalangou, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Studio Kalangou que vous recevez via son réseau de 52 radios partenaires reparties dans les 8 régions du Niger ainsi que les 6 télévisions partenaires. Vidange des fosses septiques à Niamey et transformation des boues de vidange, c'est le thème du forum de ce jour. Selon le rapport 2019 du ministère de l'hydraulique de l'assainissement, 80,6% de la population n'a pas accès aux services d'assainissement adaptés. À Niamey, comme dans plusieurs autres villes, les spécialistes de l'assainissement recommandent de procéder à une vidange des fosses septiques afin d'éviter qu'elles ne débordent ou que les bouchons ne se forment dans les canalisations. Ainsi, pour améliorer les conditions de vie, d'hygiène et d'assainissement de la ville, une station de traitement de boue de vidange a été mise en service en janvier 2019 à Niamey. Alors, comment se fait la vidange des fosses septiques et quelles sont les normes à respecter? Comment se fait le dépotage des boues de vidange? Quelles sont les règles d'hygiène à respecter pour vidanger une fosse septique? C'est à ces grandes interrogations et à bien d'autres que nous tenterons de trouver réponse dans ce studio avec nos invités présents. Il s'agit de M. Abdourahim Mohamadou, il est le chef service à hygiène et assainissement de l'arrondissement communal Niamey-Kata. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous recevons également M. Mohamadou Alzouma Bourema, il est secrétaire général du groupement d'intérêt économique Birigin Taki. La prononciation elle n'est pas garantie. Bonsoir.
Bonsoir. Non, c'est bon, c'est groupement d'intérêt économique Birigin Taki.
Birigin Taki, merci d'être là. M. Boubé Diéro, il est le chargé de communication à l'association des acteurs de la filière bout de vidange. Bonsoir à vous.
Bonsoir à vous aussi.
Et Abdelnasser Momoni, qui représente le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement du Niger. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci vraiment d'être venu à la présentation. C'est Nafissa Adam Sefo. Bonsoir à tous et bienvenue. Je commence donc par vous, Monsieur Abdourahim. La thématique de cette journée, c'est la vidange des fosses septiques et la transformation des boues de vidange. Et qui dit vidange, qui parle de boues de vidange, parle de l'assainissement. Comment vous prenez en charge cette question au niveau de votre institution?
Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer par rapport à la situation des vidanges des fosses. D'abord, des dispositions ont été prises par rapport à la situation des vidanges des fosses suite à un arrêté signé par les autorités de la ville de Niamey. Et c'est une ordonnance 93-13 du 3 mars 93 réglementée par l'arrêté 57 du 5 juin 2020. Et un article 19 dans cet arrêté et qui parle de la situation des vidanges des fosses.
Un peu partout
et de la ville de Niamey. Oui. Donc, et entre-temps aussi, il y a d'autres dispositions qui ont été prises.
Comme
et
quoi?
Par le recrutement des gardes sanitaires qui font la situation, disons, chaque jour qui est fait sur le territoire de la ville de Niamey.
Comment ils procèdent à cette sensibilisation? Ils font le tour de la ville. Qu'est-ce qu'ils font concrètement?
Et ils font le tour de la ville, ils passent maison par maison. Parce que c'est des gardes sanitaires répartis par des groupes. Mmh. Et ils sont chaque quartier, chaque arrondissement dispose de ces gardes sanitaires. Et chaque arrondissement fait un programme par quartier aussi.
Effectivement. Donc vraiment cette question, elle est prise en charge au niveau de votre arrondissement. Pas que votre arrondissement, tous les arrondissements de la ville de Niamey.
Non, la question est prise en charge sur tous les territoires de la ville de Niamey.
Et à la date d'aujourd'hui, comment se présente la situation? Comment vous voyez? Est-ce qu'il y a une évolution? La population adhère vraiment?
À la date d'aujourd'hui, vraiment la population adhère. Il y a une nette amélioration par rapport vraiment aux vidanges des fosses. Parce que suite aux sensibilisations, suite aux sanctions qui nous menant envers la situation, et vraiment la situation est en train d'évoluer.
Justement, nous allons en venir aux sanctions. Donc, avant de poursuivre, je viens vers vous, M. Mohamadou Alzouma. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du groupement IGE Birigin Taki. Parlons de fosses, de vidange de fosses. Qu'est-ce qu'on entend même par vidange des fosses septiques? Expliquez-nous.
Merci. Et de nous donner l'occasion aussi de nous exprimer par rapport à une activité que nous menons, qui malheureusement passe sous silence au niveau même de la chaîne économique du pays. Effectivement, la vidange de la fosse septique, c'est quoi d'abord la fosse septique?
Oui.
La fosse septique est un dispositif, un ouvrage de génie civil technique installé dans une résidence ou un site administratif ou professionnel qui est censé recueillir les eaux usées issues de l'activité sur le site. Donc, dans ce sens, les fosses ayant une capacité, avec le temps, elles vont atteindre leurs limites de capacité et en ce moment, il faudra forcément les vider.
Et quelle est cette capacité d'ailleurs?
Bon, la capacité d'une fosse, ça dépend. Ça dépend du site en réalité. Et ça dépend aussi du ménage. C'est-à-dire quand vous construisez une maison, maintenant en fonction de la taille de la maison, vous pouvez dimensionner votre fosse. Mais généralement, il y a des dimensions standards qui sont là, mais flexibles. Et il y a des maisons, surtout dans les quartiers traditionnels, les gens n'ont même plus la possibilité de faire ces fosses selon ces normes et ces dimensions standards. Parce que ce n'était pas prévu. La fosse, en réalité, elle s'impose. D'où la vider à un moment donné aussi s'impose. Sinon, les eaux qui sont dans la fosse, quand elles vont déborder, vont se retrouver dans votre environnement vital.
Quelle est la fréquence à respecter pour vider vraiment la fosse?
Non, la fosse, elle a d'abord une capacité qui est fixe.
Oui.
Cette capacité est déterminée à la construction de l'ouvrage.
Mm-hmm.
Mais maintenant, la fréquence dépendra de la quantité d'eau usée produite sur le site.
Donc, ce n'est pas comme le pensent certains qui pensent qu'il faudrait vraiment vider la fosse chaque mois.
Non, la fosse, elle est vidée quand elle est pleine.
Oui.
Parce que quand elle est pleine, au-delà de déborder, elle vous présente des désagréments, par exemple, dans vos douches, dans vos WC. Quand vous chassez, si la fosse est pleine, ça ne part pas tout de suite.
Alors, M. Boubé Jubot, vous êtes le chargé de communication de l'association des acteurs de la filière Bout de Vidange. Dites-nous, qu'est-ce qui est fait au niveau d'abord de votre association?
Ok, merci de me donner la parole. Bonsoir, mes chers téléspectateurs.
Mm-hmm, bonsoir.
Bonsoir, Studio Kalangu. Notre association est vraiment mise en place pour amener sa contribution aux ménages et puis aux vidangeurs.
Et quelles sont vos activités concrètement?
Nos activités, on a des camions. Et les camions ont leurs propriétaires. Donc, on fait le travail en ville.
Donc, vous avez des prestataires qui font les vidanges dans les ménages et autres?
Oui.
Effectivement. Et donc, comment se passe même le travail? Comment se fait la vidange? Expliquez-nous.
Bon. La vidange, on est là, on est là où on va se parquer. Les autres ont des bureaux.
Mm-hmm.
Donc, une fois qu'on nous appelle, on fait le déplacement pour aller sur le lieu et faire le travail.
D'accord. Et donc, vous avez vraiment des appels de la population. Comme l'a dit M. Abdourahim, à travers des sensibilisations, la population a changé de mentalité. À la date d'aujourd'hui, vous avez vraiment des appels de la population en nombre?
Oui, oui. La population a changé. Je peux dire que des fois, on voit même déborder. On ne sait même pas là où y aller, compte tenu des appels.
D'accord. Et par jour, quel est le tarif, le coût?
Le coût, bon, ça varie. Hein?
Ça varie ça de varie. Combien?
Des fois, on prend les fosses à 30 000, 25 000.
Et ça, les fosses, ça diffère?
C'est bon, on ne compte pas avec les fosses, mais avec la quantité.
D'accord. La quantité, c'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à combien?
Bon, il y a des camions qui ont des 8 mètres cubes, 9 mètres cubes, 10 mètres cubes, et il y a jusqu'à 14 mètres cubes.
Mmh. Et puis, vous intervenez dans toute la ville de Niamey?
Oui.
Ok. Donc, je viens vers vous, M. Abdel Nasser. Vous représentez le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. La vidange des fosses, on sait que c'est une question de l'assainissement ici au Niger. Vous, au niveau de votre réseau, comment vous abordez ces questions?
Je pense que pour nous, en tant que réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, cette question de vidange la fait partie de nos axes stratégiques dans le plaidoyer et la communication. C'est-à-dire qu'il s'agit non seulement de sensibiliser les communautés pour qu'elles arrêtent de faire recours au système de vidange anarchique, mais plutôt consulter les professionnels, mais aussi veiller à ce que ces professionnels-là de la vidange aient aussi respectent les normes d'hygiène et d'assainissement. Mm-hmm. Parce qu'il ne suffit pas de vidanger une fosse, mais quand vous prenez cette eau en tant que vidangeur, où est-ce que vous allez la déverser? Et là où vous allez la déverser, quel sera son impact environnemental? Mm-hmm. Donc c'est vraiment autour de toutes ces questions que nous intervenons en tant que réseau, franchement, pour créer toute une chaîne de valeur autour de cette question-là de vidange. Parce que la vidange, il faut aussi la voir comme un business,
voilà.
C'est-à-dire avec des acteurs à tous les niveaux, mmh. au niveau du ménage ou bien du service, au niveau de celui qui vend vidanger, mais aussi au niveau de la structure qui est censée accueillir
ces bouts
de vidange, mmh. et de la chaîne de valorisation qui va en suivre. Mmh. Et il y a également des activités que nous menons au niveau de la formation des médias, des journalistes, pour qu'ils se spécialisent là dans ces secteurs, afin aussi qu'ils puissent accompagner les acteurs. Mmh. Globalement, pour ne pas monopoliser la parole, mmh. c'est l'essentiel vraiment de ce que nous faisons par rapport au bout de
vidange. Votre intervention me ramène à une question que je devrais vous poser, monsieur Goubé. Donc, les bouts de vidange, où vont les bouts de vidange que vous récoltez?
À la station de traitement de Koubia.
À la station de traitement, oui, c'est une question que nous allons aborder. Et donc, avant même la création de cette station, où est-ce que vous amenez ces bouts de vidange?
Bon, on a des carrières, les grandes, comment dirais-je, carrières, c'est là-bas qu'on amène les bouts de vidange, mm-hmm. un peu partout à Niamey, mm-hmm. comme exemple Koubia, Hansi Sarey, à la commune 4, c'est un peu partout, mm-hmm. à Niamey.
Donc c'est un ouf de soulagement pour
nous, parce oui. qu'on ne peut rien faire. Mm-hmm. C'est juste de débrouiller pour pouvoir avoir là où déverser et puis après retourner. Mm-hmm. Parce que sans nous, il n'y a pas de vie.
Mm-hmm. Et là-bas, le dépotage, je ne sais pas, à combien vous le faites?
Non, on ne paye pas.
C'est gratuit.
Non, c'est gratuit.
D'accord. Monsieur Abdourahim, je rappelle que vous êtes le chef service hygiène et assainissement à l'arrondissement communal 4. Les bouts de vidange, selon monsieur Boubé, qui est de la filière bouts de vidange, elles vont au niveau de la station de traitement. Comment vous vous assurez que vraiment toutes les bouts de vidange qui sont récoltés vont à cette station?
Bon, moi, je dirais le contraire par rapport à ce qu'il vient de dire. Parce que, personnellement, moi, j'ai pris des vidangeurs, sinon plusieurs, hein, parce que je ne sais pas combien je peux vous dire. Sinon, j'ai pris plusieurs au niveau de la ceinture verte.
Au niveau de la ceinture, oui, qui déverse
vraiment.
C'est illégal.
C'est de l'informel, c'est illégal. Mm-hmm. C'est strictement interdit. Hein. Parce que dès qu'on les prenne vraiment, et surtout même il y a la brigade eau et forêt, mm. qui circule à l'intérieur de cette ceinture verte.
Et quelles sont les sanctions prévues dans ce genre de situation?
Bon, par rapport à leur cas, et c'est des situations qui se gèrent directement au niveau du service environnement. Mm. Oui.
Et comment vous vous assurez, qu'est-ce qui est prévu pour vraiment vous assurer que toutes ces boues vont au niveau de cette station?
Et la station de Koubia.
Oui.
Bon, il y a ceux qui partent là-bas, hein. Honnêtement, il y a ceux qui ne partent pas.
Oui. Je confirme.
Oui. Oui, vous voulez dire?
Non, je confirme. Je voulais préciser que ce ne sont pas tous les vidangeurs qui partent à la station. Et moi, j'étais étonné quand le chargé de la communication m'a dit que le dépotage, c'est gratuit. Alors que moi, je me rappelle, lorsque la station a été ouverte, il y avait une taxe de dépotage de 2000 francs qui avait suscité beaucoup de tiraillements.
Donc,
à la station.
Ah, non, avant les stations.
Avant la station, ils
c'est avant la station.
Voilà, donc nous avons monsieur. Monsieur Mohamed Al-Zouma, donc il aura à nous expliquer cela. Donc, comme je vous le disais, en 2019, il y avait cette station qui avait été créée, cette station de traitement des bouts de vidange. Vous pouvez nous donner un peu un aperçu.
Bon, en fait, avant de venir sur la station même,
oui.
et je vais vous rappeler que. Nous sommes aussi des vidangeurs.
Effectivement.
Et que notre GIE est constitué par uniquement des vidangeurs. Donc, dans ce sens, effectivement, je vais compléter un peu le chargé de communication de l'association. Et donc, je suis membre aussi. Mm-hmm. Et effectivement, avant la création de cette station de Koubia, c'était de l'anarchie. Il n'y avait aucun dispositif technique pour recevoir ces bouts de vidange.
C'était déversé un peu partout.
C'était sauvage. Il fallait juste trouver un site toléré, parce que c'est comme ça que je vais l'appeler, un site toléré. Mm-hmm. on déverse, on s'en va. Maintenant, avec l'appui de la Banque mondiale, il y a eu une station qui a été créée. Oui. Mais seulement, cette station, d'abord, par rapport à sa capacité, elle a une capacité de réception de 400 mètres cubes jour. Mmh. Et selon les techniciens, ça correspond en fait aux quantités d'eau produites par à peu près 400 000 ménages.
Donc, oui.
Donc cette station ne peut pas recevoir toutes les quantités d'eau usée générées journalièrement à Niamey. C'est-à-dire,
Oui.
Et pour répondre au souci de l'administrateur, la seule station qu'il a aujourd'hui à Niamey ne peut pas recevoir toutes les eaux de Niamey.
D'accord.
Donc forcer une partie de ces eaux va se retrouver encore dans le circuit traditionnel qui existait avant.
Donc, M. Abdourahim, quelle alternative si M. comment dirais-je, Mahamadou avance que cette station à elle seule ne peut pas contenir toute... quelle alternative? Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez?
Oui, justement, et par rapport à cette situation, des dispositions ont été prises.
Oui.
Ils sont au courant parce qu'on a fait beaucoup d'études avec eux et le ministère a même déjà... J'espère qu'il a déjà même fini ses études par rapport aux nouvelles bouts de village qui sont là en train d'être créées.
Des nouvelles stations?
Oui.
Sont en cours de création?
Justement.
Oui, justement, il y a le projet. Mm-hmm. Et il y a le projet ambitieux d'équiper chaque commune de Niamey d'une station. Ça, nous-mêmes, en tant que vidangeurs, nous l'avons suggéré et on a eu une bonne oreille. Hein? Qui nous a écouté.
Donc, en attendant la création de ces nouvelles stations, M. Abdourahim, ces vidangeurs peuvent continuer de déverser un peu partout si cette station ne peut pas...
C'est pas, ils peuvent continuer. Ils continuent à le faire de la formelle.
Oui.
Ils continuent à le faire. Moi, je voulais juste clarifier, c'est-à-dire clarifier un point assez inquiétant.
Mm-hmm.
Parce que nous, en tant que réseau des journalistes, au cours des trois premiers mois de la création de la station, nous avons vraiment fait des enquêtes, des recherches, nous avons eu à produire des articles.
Mmh.
Et dans nos recherches, il s'est avéré que pendant le début de l'exploitation de la station, il y avait une taxe que les vidangeurs devaient déposer pour dépoter dans la station, qu'on appelle taxe de dépotage de 2000 francs CFA, et qui faisait la discorde. Parce que certains vidangeurs refusaient de verser cette taxe-là et continuaient, c'est-à-dire de vidanger de manière anarchique.
Mm-hmm.
Je voudrais demander à ces messieurs-là qui sont... d'intervenir par rapport à ça. Est-ce que par rapport à cette situation-là, il y a eu une évolution ou bien toujours on n'est pas d'accord par rapport à cette taxe-là de dépotage?
Oui. Vous avez la parole, monsieur.
Bon, nous, en tant que gérant de la station de traitement des bouts de vidange, effectivement, et notre rôle, d'abord, on exploite cette station à travers un contrat avec la ville de Niamey.
Mm-hmm.
Et dans le cadre de ce contrat, nous sommes censés récupérer cette taxe de dépotage et faire fonctionner la station.
Oui, oui.
Et comme il l'a suggéré, il l'a dit, du moins constaté, effectivement, beaucoup de nos collègues, parce que je rappelle que nous sommes des vidangeurs aussi,
mm-hmm.
beaucoup de nos collègues sont encore réfractaires quant à fréquenter la station et à payer la taxe de dépotage.
Effectivement.
C'est un fait qui existe. Bon, et nous, et la ville, nous, on continue à faire la sensibilisation avec nos collègues.
Mm-hmm.
La ville, et elle aussi, a commencé à nous accompagner en réprimant souvent.
Mm-hmm.
Quand je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un sérieux problème, c'est même aux alentours de la station que certains de nos collègues continuent à déverser.
L'impact environnemental même...
On s'est beaucoup plaint au niveau de la ville. La ville a fait des tentatives. Il y a même eu des gardes sanitaires qui sont positionnés là-bas. Mais on ne comprend toujours pas, malgré leur présence.
C'est dit à nos mentalités.
Malgré leur présence, les gens continuent à aller. Dernièrement, on a eu une initiative parce que l'accès où les gens déversent...
Oui.
Il s'est avéré que c'est pas toutes les qualités d'eau que la station récupère. Par exemple, les eaux qui viennent des centres hospitaliers ou de certains sites industriels ne sont pas acceptées de la station pour qu'elles n'aient pas un impact polluant sur la boue. Donc, ces eaux sont rejetées à côté de la station dans un ravin.
Et justement, parlez-nous du travail qui est fait dans cette station.
Oui.
La boue transformée, elle devient quoi?
Bon, avant qu'on arrive à la boue d'abord, on parle de l'environnement de la station. Oui. Donc, aujourd'hui, et l'accès à ce point de dépotage des eaux non acceptées par la station était à l'air libre. Et beaucoup de nos collègues profitent de cet espace-là pour aller déverser et contourner la taxe à l'intérieur de la station. Dernièrement, avec, sur entente avec la ville de Niamey, l'espace, l'accès a été clôturé et annexé à la station. Donc, tu ne peux pas avoir accès sans passer par la station. Néanmoins, les gens ont frayé encore une autre voie.
Malheureusement.
Oui. Et ils continuent à déverser. Et là, c'est phénoménal.
Des sanctions doivent être prises.
Oui, des sanctions doivent être prises. Mais seulement nous, en tant qu'aujourd'hui GIE exploitant de la station, on a la double casquette d'être quand même des vidangeurs.
Voilà.
Nous ne pouvons pas être au devant de la réprimade de nos collègues.
Oui, oui. Ça sera contradictoire.
Donc c'est à eux d'être au devant de la sanction. Nous, on ne peut que rapporter les constats. Mais quand il faut sanctionner, ce n'est pas à nous, gérants de la station, parce que tu ne peux pas te sanctionner toi-même. Vous comprenez?
Oui, oui.
Donc ça, c'est un premier problème. Maintenant, le fonctionnement de la station, l'aspect technique. En fait, la station est censée récupérer les eaux usées.
Oui. De et ces pas eaux toutes usées. Les eaux usées.
Non, pas toutes les eaux usées, comme puisque l'objectif, c'est de récupérer la boue et de la valoriser. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter que certains types d'eau viennent contaminer la boue. Donc, quand les camions de vidange viennent, ils déversent dans des bassins. On laisse l'eau sédimenter et après, la boue est récupérée. Maintenant, quand la boue est récupérée, elle est séchée. L'eau, le reste de l'eau, continue dans des bassins de traitement phytosanitaire. C'est-à-dire, c'est un traitement qui n'est pas à base de produits chimiques, mais à base d'un procédé phyto. C'est-à-dire, c'est des plantes
que vous introduisez.
Qui sont plantées dans les bassins. Et quand l'eau stagne dans ces plantes pendant un bout de temps, elles ont la capacité d'absorber le maximum de bactéries dedans. Et après le processus, ces eaux sont rejetées pour le moment. Maintenant, la boue séchée, elle est censée aller dans une filière de valorisation.
C'est à quelle filière, par exemple?
Il y a beaucoup de filières. Mais la plus simple, c'est la filière agricole.
Et donc, de la création de cette station de 2019 à la date d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà à la phase de transformation?
On n'est pas à la phase de transformation. Pour des blocages techniques entre nous et le partenaire. Donc, on n'a pas pu évoluer à cette phase, mais les boues sont stockées. Nous continuons à les analyser et nous sommes arrivés quand même à un niveau où, bactériologiquement, ces boues sont homogénéisées. On peut les utiliser pour l'agriculture. On a fait des analyses et plein. Maintenant, il suffit juste de les conditionner, amener les équipements complémentaires. Et la valorisation commence.
Donc, Abdourahim, vous êtes le chef service hygiène assainissement de la commune 4. Quel appui donc vous apportez à ces genres d'initiatives? Parce que c'est vraiment des initiatives à saluer.
Merci. Et par rapport à l'appui, déjà, il a même confirmé que nous avons déployé une équipe spéciale sur ce site pour pouvoir vraiment contrôler et vraiment amener les gens à déverser sur le site approprié. Et en même temps sensibiliser ce vidangeur. Nous avons voulu passer par la voie pacifique. Mais toujours est-il comme vraiment, il y a des résidus, nous sommes là en train de réfléchir les sanctions vraiment qu'on doit prendre par rapport à cette situation.
Donc si on comprend, à la date d'aujourd'hui, aucune sanction n'a été appliquée sur cette
Non, pour le moment, non.
D'accord.
Oui.
Monsieur Boubé, vous êtes de la filière boue de vidange. Les vidangeurs, on sait qu'ils sont un peu partout dans la ville de Niamey. Ils pénètrent leur travail. Comme vous l'avez expliqué, ce n'est pas du tout facile. Quels sont les risques auxquels ils sont exposés, si on peut le dire?
Bon, les risques sont vraiment nombreux. Je sais qu'on peut être contaminé si tu n'es pas protégé lors de la vidange. Et il y a aussi, comment dirais-je, les vidanges sauvages que le chef vient de dire. Et là aussi, parce que c'est des voisins, peut-être tu peux tomber dedans parce qu'on a vécu le cas. Le camion même peut tomber dedans.
Mais en faisant même le travail de vidange, quelles sont les précautions que vous prenez, les précautions d'hygiène?
Bon, on a des matériels de travail, des travaux, comme sur des gants, des boîtes, et puis avec des cache-nez. Donc c'est avec ça qu'on travaille. On a les tuyaux qui font le travail. Donc juste, nous, on va faire la communication seulement des tuyaux, et puis on met le tuyau dans le trou, et puis c'est la machine qui tire.
Ok, monsieur Abdoul Nasser, les vidangeurs là, ils sont en contact direct avec la boue, le respect de l'hygiène n'est pas totalement garanti. Selon vous, quelles sont les règles d'hygiène qu'ils doivent respecter vraiment dans ce travail pour minimiser les risques?
Moi, je pense qu'il y a tout un dispositif et des techniques au fait que les vidangeurs doivent mettre en place pour se protéger et qui sont même réglementées en matière d'assainissement. Mais il faut préciser que l'application de ces techniques n'est pas facile au regard du contexte local. D'abord, vous prenez certaines fosses septiques ne remplissent pas les conditions vraiment sur le plan technique. Donc c'est ça qui fait en sorte que parfois les vidangeurs se retrouvent dans des situations où il y a des vidangeurs qui tombent dans des fosses, ou bien il y a même des véhicules qui rencontrent des difficultés au fait, parce que parfois l'ouvrage même de la fosse septique dans sa construction elle ne respecte pas les normes au fait en termes de génie civil, et c'est ça qui fait en sorte que l'exercice de la vidange n'est pas facile, et ça expose au fait les vidangeurs. Mais à la fois au niveau des vidangeurs, il y a tout un dispositif à prendre, parce que il y a d'abord ce qu'on appelle le kit du vidangeur, qui doivent être constitués d'une tenue quand même qui assure la protection des parties visibles du corps humain, et aussi des parties qui sont en contact avec la fosse, notamment la main. La main, c'est l'organe qui est en contact avec la fosse, donc elles doivent être protégées. Également les yeux, le corps, et également le vidangeur doit être équipé de bottes. Donc ça, c'est des dispositifs qu'ils prennent lorsqu'ils vont vers la vidange. Mais au-delà de ça, il y a aussi des kits dont ils doivent être munis, notamment des savons, des gels liquides, pour leur permettre de se désinfecter les mains au jour et jour, le quotidien. Parce que le vidangeur, c'est comme quelqu'un qui travaille dans un laboratoire où il teste des produits, au fait. Il est constamment exposé, donc il doit être muni au fait d'un dispositif pour faciliter son exercice. Et c'est pour cela que tout le temps nous disons que, c'est-à-dire, nous devons définir, c'est-à-dire un plan stratégique entre acteurs, que ce soit nous, les journalistes, les vidangeurs, la ville, pour parvenir à une stratégie qui va permettre de professionnaliser le secteur à long terme. Par exemple, les vidangeurs sont regroupés en associations, mais dans ces associations-là, c'est des individus, qui détiennent des camions. Et non, c'est celui qui détient son camion qui met en place son dispositif pour garantir l'hygiène et l'assainissement. Quoi qu'il en soit, même si l'association en elle, elle a un pouvoir des normes et des règlements, il faut aussi faire en sorte que ces individus-là qui payent des véhicules et qui décident de faire la vidange aient au moins le minimum de formation sur des questions d'hygiène et d'assainissement, afin que vraiment qu'ils prennent des précautions pour sécuriser les personnes qui interviennent dans la chaîne de la vidange.
Moussé Mahamadou, est-ce que vraiment tout ce dispositif est respecté?
Tout ce dispositif existe. Il est respecté et il n'est pas respecté.
Expliquez-nous.
Je vais vous expliquer. Parce que, comme je vous dis, je le répète, j'ai la double casquette.
Oui, oui.
Donc, je suis vidangeur. C'est-à-dire, en ce sens où j'ai des camions de vidange et j'ai du personnel. Mais je vous dis, voilà, le chargé de communication, il est plus sur le terrain que moi. Mais nous équipons nos agents de bottes, de gants, de tenues, de cache-nez. Ça, c'est le minimum.
Effectivement.
Nous, propriétaires de camions, nous les faisons.
Oui.
Mais eux, sur le terrain, ils font autre chose. Parce qu'ils ne portent pas.
Et selon vous, pourquoi?
Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'ils ne sont même pas conscients de l'importance de cet équipement. On l'appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. Parce que moi, camionneur, c'est de l'argent que je dépense pour mettre
à ta
disposition cet équipement. Mais si toi, tu penses que cet équipement-là, c'est même une contrainte de le porter, comment il faut faire? Tu vas chasser les gens?
Ça sera 20.
C'est 20. Donc, c'est en ce sens que eux, par exemple, peuvent être utiles avec la ville, en nous aidant à aussi sensibiliser nos personnels sur l'importance de ces EPI.
Monsieur,
quand le personnel va être vraiment conscients de l'importance de ces EPI-là. Ils ne vont même pas travailler si nous ne mettons pas ça à leur disposition.
Effectivement. Monsieur Boubé, vos agents vidangeurs qui sont sur le terrain, ils ne sont pas conscients des dangers auxquels ils sont liés?
Pas tout le monde.
Sans pour autant utiliser tous ces dispositifs?
Pas tout le monde.
Mais qu'est-ce que vous faites pour les conscientiser?
C'est juste une sensibilisation, on ne peut rien faire. On ne peut pas sanctionner la personne. Ah oui. Parce que d'autres disent que ça les gêne même. Surtout même les gants, d'autres disent qu'ils ne peuvent même pas bien travailler. Bon, qu'est-ce que tu vas dire à la personne?
Moi qui ai acheté les gants, tu
dis que c'est sinon, moi je ne peux même pas toucher quelque chose sans les gants. Moi, là où je suis.
C'est inquiétant. Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Depuis un certain temps, l'on constate également qu'il y a des jeunes qui s'adonnent à une autre forme de vidange. Leur matériel, on le voit, se limite à un seau, une pelle, une corde. Et en l'absence de tout matériel de transport, ces jeunes, ils déversent les boues à la devanture des maisons tout près du lieu de collecte, le plus souvent même dans les rues ou dans les caniveaux. Monsieur Abdourahim, que dire sur cette pratique? Êtes-vous au courant de cette pratique?
Et par rapport à cette pratique, justement, nous ne sommes pas informés officiellement. Parce que c'est des curages qu'ils font dans l'informel. Et ces genres de cureurs, nous les interpellons aussi. Nous les sanctionnons. C'est une situation que la ville n'accepte pas. C'est la situation que la ville n'a jamais acceptée.
Est-ce que vous avez déjà eu à interpeller des jeunes?
Oui, on a interpellé beaucoup de jeunes par rapport à ces genres de curage manuel.
Le curage manuel est illégal selon M. Abdourahim. Que pensez-vous, vous, M. Abdel Nasser, du REGEA,
pratique? Moi, je pense qu'au niveau du REGEA, ça fait longtemps que nous nous sommes fortement opposés au curage manuel. Hein. Oui. C'est-à-dire depuis tout le début, il y a 10 ans de cela, c'était une pratique contre laquelle on était contre, à l'époque où même il n'y avait pas assez de vidangeurs dans la ville de Niamey comme aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que quand vous calculez l'impact environnemental de ce curage manuel, il est conséquent. Parce que ces jeunes-là, ils déversent ces eaux-là systématiquement dans un trou qui est réformé. Qui est refermé. Et en saison de pluie, c'est le curage manuel qui occasionne les épidémies de choléra. Parce que lorsque le trou est refermé et qu'il y a une forte pluie, ça peut transporter les eaux, les défections et les répandre dans les ménages. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs années, nous avons attiré l'attention de ces jeunes-là qui pratiquent cette activité-là, d'aller vers le formel. Parce que quoi qu'il en soit...
Par des personnes spécialisées.
Parce que quoi qu'il en soit, ces jeunes-là, on comprend que pour eux, c'est de l'emploi. Donc, leur dire systématiquement d'arrêter, c'est de mettre fin à leur gagne-pain. Et l'assainissement, c'est avant tout un business, je le disais tantôt. C'est une économie où à chaque étape d'intervention, il y a des acteurs qui produisent de la matière. Donc, ces jeunes-là, il y a lieu de les orienter, de les former ou bien de les amener vers l'association, de les mettre à la disposition de l'association et de créer une demande sur le marché pour leur permettre d'avoir tous les outils qu'il faut pour faire la vidange. Mais ce type de vidange-là, je l'ai dit tantôt, c'est formellement interdit et son impact environnemental et sanitaire, il est extrêmement conséquent.
La vidange donc doit se faire par des personnes spécialisées. Monsieur Mahamadou, vous êtes les propriétaires aussi des camions. Est-ce que les vidangeurs que vous engagez, ils ont déjà reçu des formations?
Bon, avant de répondre à votre question, et je vais plutôt revenir sur l'aspect de la vidange.
Oui.
Artisanal.
Oui, oui.
Bon, ironie de l'histoire. Hein? Aujourd'hui, en 2000, et j'étais celui qui a créé le tombero.
Tombero, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, c'est une petite charrette avec le tonneau couché horizontalement qui permettait de faire la vidange sauvage. Mais à ce moment, moi, j'avais juste... Les gens faisaient dans les seaux. Et moi, quand j'étais revenu de l'université, j'ai dit non, on peut faire un petit dispositif où les gars peuvent pousser pour arriver au prochain caniveau. Et ça a fait même une bagarre d'abord avec eux.
Justement, ils ont dit
que c'est
illégal.
Ils ont dit que c'est illégal. Et je leur ai dit oui, c'est illégal. Mais entre-temps, quelle option on offre au ménage? On ne règle pas le problème et on le déplace. Et à ce jour encore, les mêmes réalités sont là. C'est vrai, moi j'ai évolué au camion et tout, mais le dispositif a été récupéré par d'autres. Ils le font. Aujourd'hui, ils le font pourquoi? Les problèmes, comme je disais tout à l'heure, l'assainissement a des pratiques culturelles, hein, et il y a les obligations techniques. Donc ça, c'est des pratiques culturelles. Les gens, ils sont habitués à faire ça. D'abord, par la nature des fosses, ce n'est pas des fosses septiques dans ces ménages, c'est des regards et des puisards. Donc, un puisard, il est de petite capacité. Donc, le propriétaire de ce puisard-là, il ne voit pas l'intérêt de faire venir un camion vidangeur qui va venir juste pour tirer 1000 litres.
Effectivement.
Et nous, quand on vient avec un camion, on vous facture la capacité du camion. Alors, est-ce que le ménage, avec le niveau de vie qu'on connaît, peut s'offrir le camion dans un puisard? Ça, c'est le premier
donc
aspect.
Donc, c'est la raison pour laquelle la plupart des ménages font recours à ces
ambulants.
Voilà.
Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que même là où il y a des fosses septiques dans les normes, vous comprenez, nos camions étant des camions usagés déjà en Europe, que nous récupérons ici, ces camions n'ont pas la possibilité d'aspirer toute la boue dans la fosse. Ces camions vont avec à peine 10% de boue de leur capacité.
Donc c'est à ce moment que ces jeunes procèdent au curage.
Et quand maintenant, après 2, 3, 4 vidanges, parce que la boue continue à s'accumuler dans la fosse, la capacité de la fosse diminue, donc le ménage a besoin de curer la fosse. Et pour curer la fosse, nous, vidangeurs mécaniques, on préfère ne pas aspirer la boue avec nos camions.
Donc, bien qu'elle soit illégale, cette pratique, elle a son importance.
Elle s'impose. En réalité, elle s'impose.
Oui, elle s'impose.
Elle s'impose. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Nous, on vient, on vide l'eau. Alors, le cureur manuel, il vient, il creuse un trou à côté de la fosse. Il rentre dans le trou. Hein? Il sort toute la boue qu'il déverse dans la fosse à côté. Souvent, on laisse même sécher 2-3 jours ouvert, ce qui est très dangereux. Et après, on referme avec du sable. Donc, le problème n'est pas réglé, mais il est au moins déplacé. Entre-temps, la fosse continue à être utilisée.
Okay. Et parlant de vos agents vidangeurs, la formation, est-ce qu'ils suivent des formations? Ils ont déjà suivi des formations?
Il n'y en a pas.
Il n'y a pas une formation?
Où est le cadre? Où est le cadre pour les former?
Mais quand même, au niveau de l'association, il y a le minimum que vous leur offrez.
Au niveau de l'association... C'est vrai, je suis membre de l'association, donc je parle sous couvert de lui, même si je ne représente pas l'association ici. Au niveau de l'association, il y a deux catégories de membres. Il y a les propriétaires de camions et il y a les employés. Justement, pour ces besoins de sensibilisation, nous avons préféré être ensemble.
Effectivement.
Parce que si nous, nous restons d'un côté, nous les lâchons de l'autre côté, ce n'est pas possible. On n'arrivera à rien. Ils sont là avec nous. Mais quand ils vont sur le terrain...
Alors, Monsieur Abdourahim, comme tout travail, on sait que ces vidangeurs rencontrent même des difficultés sur leur lieu de travail. Quels conseils avez-vous à leur donner? Et quels conseils pour la population même?
Bon, moi, ce que je vais essayer de leur proposer par rapport à la situation, c'est de collaborer avec la ville de Niamey, tout en exprimant peut-être un besoin des agents et censé faire la sensibilisation. Là, vraiment, à tout moment que vous avez besoin vraiment de notre service, nous, on peut essayer vraiment de venir les accompagner à tout moment.
Monsieur Boubé, quel appel à ces vidangeurs pour respecter les règles d'hygiène dans leur travail?
Bon, vraiment, ouais, on a intérêt parce que c'est pour nous protéger. Et donc, pour les vidangeurs manuels, ils n'ont pas le choix On ne peut même pas les arrêter parce qu'il y a même des endroits où les camions ne peuvent même pas rentrer. Ah oui, on n'a pas de voie pour arriver à faire notre travail, donc il faut eux.
Le problème,
c'est que on ne peut même pas les dire aussi d'aller à la station parce que c'était loin. Dans les 5 communes, on n'a que un.
Il y en a d'autres qui sont en cours de création, comme la...
Oui, il y a d'autres qui sont en cours de création. Le deuxième station, c'est à la rive droite.
Alors, Monsieur Abdel Nasser, de votre côté, on sait qu'il y a la station, il y a des stations de traitement qui sont même en cours. Quelle alternative aussi à défaut de ces stations, selon vous?
Pour moi, il n'y a pas d'alternative. C'est soit on veut faire, soit on ne veut pas faire. Si on veut faire des stations, il nous faut nécessairement Si on veut faire de l'assainissement un secteur marchand, si on veut récupérer nos bouts de vidange, les valoriser, garantir un environnement sain aux populations de la ville de Niamey, il faut nécessairement aller vers la création des stations de bouts de vidange. Et je voulais insister pour dire que faire une station de bouts de vidange, ce n'est pas facile, parce que le budget s'élève à des milliards. Et même la station dont on a à disposition, c'est la Banque mondiale qui l'a financée. Le monsieur à côté de moi a tantôt précisé, par le biais du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement.
Oui, rapidement, mais nous sommes presque
voilà,
à la fin.
Mais ce que je voulais préciser, c'est qu'au Niger, c'est-à-dire c'est notre perception même de l'assainissement qui doit changer. On ne doit pas voir l'assainissement comme simplement un simple moyen d'assainir et de faire la propriété. Non, l'assainissement, c'est un secteur marchand. C'est-à-dire l'assainissement, c'est un commerce, c'est un business dans lequel on peut investir et avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices. C'est un vrai secteur marchand. Donc, nous devons amener nos grands commerçants, nos grossistes à investir dans le secteur de l'assainissement, ce qui va permettre d'aller vers une industrialisation du secteur et pourquoi même vers la création de chaînes de valeur, de bouts de vidange et d'entreprises, c'est-à-dire locales qui vont gérer la chose. Parce qu'aujourd'hui, la seule station qu'on a, elle a été financée par la Banque mondiale qui est un partenaire international. Donc, il faut qu'on évolue vers la mobilisation des ressources endogènes pour nous permettre nous-mêmes de nous doter des infrastructures qui vont nous permettre non seulement de créer de l'économie, mais aussi de mobiliser des investissements au niveau local.
Merci. Donc, je termine avec vous, M. Mahamadou Alzouma Bourema. Vous êtes le secrétaire général de l'IGE Brigitaki. Donc, votre mot de fin, quel appel avez-vous à faire à ces vidangeurs, qu'ils soient manuels ou les spécialisés? Et aussi, quelles sont vos propositions vraiment pour une meilleure amélioration des conditions de travail de vos vidangeurs?
Bon, moi, vous allez m'excuser, ce n'est pas à votre question que je vais répondre. parce que la réponse à cette question, elle a déjà été un peu ébauchée.
Oui.
Mais moi, c'est plutôt un cri de cœur que je vais lancer à l'autorité.
Oui, nous avons la chance d'avoir
une autorité. Oui, j'ai une autorité en face. Hein? Nous leur mettons la pression, ils savent. Mais l'assainissement, pour le moment, au Niger, est une fonction régalienne des villes. Donc, pour que ça devienne du business, comme ailleurs, il faut que d'abord la ville commence par prendre les textes officiellement pour déléguer cette activité. Tant que ce n'est pas fait, parce qu'aujourd'hui, nos camions vidangeurs, légalement, ne sont couverts par rien du tout. Vous comprenez? Parce que c'est une mission de la ville. Et il faut que la ville délègue à travers, par exemple, un mécanisme de licence, de reconnaissance. Aujourd'hui, nos entreprises évoluent dans l'assainissement, mais nous évoluons comme des entreprises classiques.
On espère donc que ce cri de cœur sera vraiment entendu par le biais
s'il vous plaît.
autorité.
Par rapport à la station aussi.
Oui, par rapport à la station.
Par rapport à la station aussi, il faut que la ville s'assume. Oui, c'est un cadre contractuel. Tant que la ville n'assume pas sa partie, les stations ne peuvent pas être viables, même si on nous les construit gratuitement.
Merci. Donc, on espère, comme je l'ai dit, que votre cri de cœur soit vraiment entendu par le biais de notre autorité qui est là. Et donc, la vidange des fosses septiques, elle est nécessaire pour tout ménage et pas que les ménages dans toute la société. Elle est nécessaire et doit se faire régulièrement par des spécialistes de la question pour vraiment assurer un environnement sain et faire de l'assainissement une réalité ici au Niger. Et donc c'est ici que prend fin ce forum. Merci à nos invités présents dans ce studio, M. Abdourahim Mahamadou, chef à service à hygiène et assainissement à l'arrondissement communal Niamey 4. Merci d'être venu. Monsieur Mahamadou Alzouma Bourema, il est le secrétaire général du groupement d'intérêt économique Brigitaki. Merci d'être venu. Monsieur Boubé Jubo, chargé de communication à l'association des acteurs de la filière bout de vidange, merci. Et enfin, monsieur Abdel Nasser Moumouni, du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement au Niger, merci aussi. À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo, à la technique Issac Loli, à la vidéo Mustapha Ayuba. À très bientôt pour une nouvelle thématique sur le studio Kalangou.